Méridienne.
Allez, tout de suite, on retrouve Jean-François pour une rubrique Nuances du Monde. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui en ce 9 octobre ?
Eh ben, je te propose de faire un petit peu d'histoire de l'Antiquité et plus particulièrement de parler de la fondation de Lyon. Car effectivement, c'est un 9 octobre de l'an 43 avant Jésus-Christ que notre grande voisine fut fondée sous le nom de Lugdunum. En effet, cette année-là, un groupe de vétérans romains a quitté Vienne pour s'installer plus au nord sur la colline de Fourvière et fonder une nouvelle ville.
Alors, est-ce que ça veut dire que le site de l'actuel Lyon était totalement inoccupé auparavant ?
Ah ben non, on peut pas vraiment dire ça quand même. On a retrouvé des traces d'un passé plus ancien qui ont été trouvées donc sur l'actuel quartier de Vèze. Ceci était fréquenté en fait dès la fin de la préhistoire, vers 12 000 avant J.C. Et la multiplication des découvertes atteste la présence vraiment d'une communauté sédentaire au néolithique à partir du 5e millénaire. Au cours de l'âge de bronze, un village est établi dès 1200 avant J.C. Et c'est une véritable bourgade qui se développe à la fin du 6e siècle sous le nom de Condat. La présence d'amphores à vin provenant d'Italie ou de Marseille et de céramique grecque atteste des contacts avec le monde méditerranéen via l'axe Rhône-Saône. Ces échanges vont s'intensifier d'ailleurs au cours du second âge de fer entre 450 et 50 avant Jésus-Christ.
Et donc arrive la fondation de cette ville nouvelle qui est Lugdunum.
Effectivement, et pour bien la contextualiser, nous allons commencer par deux petits rappels. En 52 avant Jésus-Christ, Jules César achève la conquête de ce qu'il nomme la Gaule. Le 15 mars 44, il est assassiné par une conjuration de sénateurs et cet axe va avoir des répercussions importantes jusqu'à chez nous, puisque des vétérans de l'armée romaine, fidèles à César, vont être contraints de quitter Vienne et vont venir s'installer sur la colline de Fourvière. L'année suivante, Lucius Minacius Plancus, alors gouverneur de Gaule, est missionné par le Sénat romain pour fonder une colonie romaine sur ce site. Il lui donne le nom de Lugdunum. Ce nom est formé de deux mots gaulois, Dunum qui signifie mont ou colline, et Lug qui désigne un dieu celtique dont on célébrait la fête le 1er août. Un sanctuaire de ce dieu se trouvait peut-être d'ailleurs sur la colline de Fourvière avant l'arrivée des Romains. Alors les premiers habitants sont des citoyens romains, des vétérans de l'armée. Le statut de colonie place Lugdunum au sommet de la hiérarchie municipale romaine, ce qui va favoriser son développement. Le choix de l'emplacement est stratégique, car le site de Lyon, au confluent du Rhône et de la Saône, est placé sur l'importante voie de circulation, constituée par la vallée du Rhône, donc, qui est un trait d'union entre la Méditerranée et les futures provinces intérieures. Mais d'importants travaux seront nécessaires pour y établir une ville.
Alors comment est-ce que Lugdunum va-t-elle prendre de l'importance ?
Alors, au cours des dernières décennies du 1er siècle avant J.C., un certain nombre de décisions politiques prises par Auguste, le premier empereur romain, c'est pas César le premier empereur romain, je rappelle, expliquent la croissance rapide de Lugdunum. Auguste divise la Gaule celtique en trois provinces, la Lyonnaise, la Belgique et l'Aquitaine. Lugdunum devient capitale de la Lyonnaise. La ville concentre ainsi des services administratifs communs à plusieurs provinces. Elle devient aussi le siège d'un important atelier monétaire qui frappe monnaie pour tout l'Empire. De plus, Auguste confie à son gendre, Agrippa, la tâche d'organiser le réseau routier gaulois, essentiel pour assurer le déplacement rapide de l'armée romaine. Et Agrippa place Lugdunum au centre de ce réseau, car Lugdunum sert, au cours de ces mêmes années, de quartier général au commandant en chef des expéditions de Germanie. Le règne d'Auguste est en effet marqué par le désir de Rome d'installer ce pouvoir outre-Rhin. Ce maillage routier va aussi faire de Lugdunum un carrefour commercial.
Et donc assez rapidement, Lugdunum devient aussi un centre religieux.
Et effectivement, au double titre de capitale administrative et stratégique, s'ajoute très vite celui donc de capitale religieuse de la Gaule. Le renom de la ville s'accroît ainsi avec la création en 12 avant Jésus-Christ du sanctuaire des Trois Gaules, dédié au culte impérial. Ce sanctuaire est localisé sur la colline de la Croix-Rousse et il accueille chaque année des délégués des 60 tribus gauloises rassemblées au sein du Conseil des Gaules. C'est d'ailleurs lors d'une de ces manifestations en 48 que les notables gaulois décident d'intervenir auprès de Claude pour obtenir le droit d'entrée au Sénat romain. La réponse favorable de l'empereur est connue à la fois par le récit de Tacite et surtout par un document, la célèbre table claudienne en bronze trouvée dans le voisinage du sanctuaire au XVIe siècle et qui transcrit le discours de Claude devant les sénateurs. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, aller admirer cette table claudienne au musée gallo-romain de Fourvière. Elle est présente. Mmh. Alors pour résumer, Lugdunum était un centre politique, militaire, religieux et commercial. Sa population était donc cosmopolite, avec un mélange de Celtes, de colons romains, de commerçants étrangers et d'esclaves. Cela en faisait une cité où différentes cultures se côtoyaient et où de nombreuses divinités étaient célébrées.
Alors, comment est-ce que évolue la géographie de Lugdunum au début de notre ère ?
Alors, passé les premières décennies, la croissance de Lugdunum va encore s'accélérer et la romanisation de la cité se marquer davantage. À l'époque d'Auguste, le forum s'installe sur l'actuelle place de Fourvière. Le théâtre est construit sur les ruines de l'ancien forum de Plancus. L'Odéon et le sanctuaire de Cybèle s'élèvent juste à côté. Un premier aqueduct apporte l'eau sur la colline. Et le plateau de Fourvière concentre ainsi les autorités administratives, les boutiques, les temples et les théâtres. C'est la ville vraiment officielle. Peu à peu, la cité va déborder de son cadre primitif et va s'étendre au pied de Fourvière, sur les rives du Rhône et de la Saône, et dans l'île des Canabaïs, ce qu'on appelle aujourd'hui la Presqu'île, qui sera le lieu de l'artisanat et des entrepôts. Au IIe siècle, l'arrivée à Lyon de l'aqueduc d'Ugier provoque une extension de l'habitat. Et en tout, c'est d'ailleurs 4 aqueducs qui vont se déverser, qui vont permettre de déverser 80 000 mètres cubes d'eau par jour pour irriguer de les nombreuses fontaines et autres thermes publics présents dans la cité. Et donc, en tout, Lugdunum s'étend sur près de 350 hectares et devient l'une des plus grandes villes de la Gaule. À son apogée, au IIe siècle, on peut estimer que, à son nombre d'habitants, entre 50 000 et 80 000. Son succès attire donc. D'ailleurs, plusieurs empereurs vont séjourner à Lugdunum, notamment Hadrien en 119.
Et la ville, elle est aussi connue, je crois, pour avoir été le théâtre de la persécution des premiers chrétiens.
Ouais, en effet, c'était sous le règne de Marc Aurèle, en 177. La communauté chrétienne est persécutée car elle refuse de pratiquer le culte impérial, qui est jugé pourtant indispensable à l'unité de l'Empire. C'est ainsi que 48 martyrs périssent, dont Saint Potin, un des premiers évêques, et Sainte Blandine, qui est assez célèbre. D'ailleurs, la fin pathétique de cette dernière a été racontée dans une lettre que nous rapporte Eusèbe de Césarée, qui a été écrite par les chrétiens de Vienne et de Lyon, à leurs frères d'Asie et de Phrygie. Alors bien qu'elle soit hagiographique, je vais quand même vous lire un passage de cette lettre pour vous rendre compte un peu de ce que étaient les répercussions contre les chrétiens. Je cite « Après les fouets, après les bêtes, après le grill, on finit par la jeter dans un filet et l'exposer ainsi à un taureau. Bien des fois projetée en l'air par cet animal, elle ne s'apercevait même plus de ce qui lui arrivait. Absorbée qu'elle était dans l'espérance et l'attente de sa foi et dans son entretien avec le Christ. » On l'égorgea, elle aussi, et les païens eux-mêmes reconnaissaient que jamais, chez une femme n'avait supporté autant de pareils tourments.
Ouais, c'est une violence incroyable.
Assez incroyable, ouais.
Sans transition, un mauvais choix va cependant mettre en péril Lugdunum.
Ouais, quelques années plus tard, c'est en 197, la guerre de succession qui oppose Septime Sévère, proclamé empereur par le Sénat, à Claudius Albinus, qui est gouverneur de Bretagne, va prendre fin... à Lugdunum, par une bataille dont Septime Sévère sort vainqueur. La ville, qui a pris le parti de son adversaire, va subir de sévères représailles. Elle est mise à sac et elle va donc se relever très difficilement. À la fin du IIIe siècle, sous le règne de Dioclétien et à la suite d'une réorganisation des provinces, Lugdunum va perdre son rang de capitale au profit de Trèves, tandis que l'institution du Conseil des Gaules va disparaître. La ville se recentre désormais autour de la résidence de l'évêque, qui est au bord de la Saône, près du baptistère et de la cathédrale Saint-Jean. C'est donc la mort de Lugdunum. Mais la ville médiévale de Lyon peut alors commencer son histoire.
Ok. Et donc, est-ce qu'on fête l'anniversaire de Lyon en ce 9 octobre, ou est-ce qu'on le fête plutôt à la mort de Lugdunum et à la naissance de Lyon ?
Ah, on ne le fait pas vraiment finalement, c'est resté assez...
Oui, il n'y a pas d'anniversaire, on ne souffre pas de bouger sur un gâteau.
Voilà, on va plutôt parler du 8 décembre. Hein.
Ok, merci beaucoup Jean-François.
De rien. Galade. La Méridienne.